On en parle avec David Veilleux, qui est agent à la promotion de la société. Bonjour, M. Veilleux.
Bonjour.
Bon, naturellement, quand on dit que c'est un parc qui est pas très, très connu, qui a des gens qui le fréquentent, oui, mais qui a un paquet de monde qui le connaissent pas, vous, en tant qu'agent de promotion, c'est un commentaire que vous recevez comment?
En fait, on le comprend tout à fait, puisque... Le parc côtier existe, là. C'est une initiative qui est née en 2012. L'idée est née en 2012. Ça a été travaillé. On a fait une première saison test. C'est notre troisième saison cette année. Puis on est encore dans une saison test, comme on pourrait dire. Parce que, on voulait que nos infrastructures soient prêtes avant de faire une promotion, puis de le rendre à un public plus large.
Oui, mais en même temps, M. Veilleux, c'est le fun qu'on se parle ce matin, parce que ça va nous permettre d'éclaircir certaines choses. Le parc côtier Kiskatuk comme tel, le territoire de ce parc-là est fréquenté quand même depuis plusieurs années, là.
Oui, absolument. On pense principalement au territoire là, du côté de Kakuna, là, le site ornithologique de la montagne du Gros Kakuna, que les gens connaissent très, très bien. C'est un site qui est une réserve fédérale. Il y a plusieurs sites qui font partie de la réserve nationale de faune. Les gens le côtoyaient déjà, mais c'était d'une façon un peu plus libre. On a décidé là de structurer un peu les choses pour rendre accessible le corridor côtier. C'est une façon de préserver aussi l'endroit. Donc, l'initiative est relativement nouvelle là, de vouloir le faire connaître et le rendre plus accessible aux gens.
Maintenant, expliquez-nous un peu comment ce secteur-là, premièrement, il s'étend sur quand même quelques kilomètres de long, là, si on considère le point d'accès pour la montagne, la montagne du Gros Kakuna, si on part de là, mettons, et qu'on s'en va vers l'est, ça se tient sur combien de kilomètres?
C'est environ 30 kilomètres côtiers. On parle là, de... Ce qui fait la particularité du parc, c'est que c'est vraiment un parc morcelé, donc les territoires ne sont pas nécessairement reliés les uns aux autres, sauf peut-être par la route verte, là. Donc, les gens peuvent visiter un territoire, reprendre la voiture, se déplacer sur un autre territoire. Chaque territoire a ses sentiers qui sont propres, ses décors qui lui sont propres, ses milieux naturels qui lui sont propres, et d'un territoire à l'autre... les gens, là, selon le niveau de difficulté qu'ils désirent pour la randonnée ou juste avoir un point de vue, peuvent visiter les différents territoires.
Ouais.
Mais c'est vraiment une trentaine de kilomètres côtiers. Puis depuis 2017, il y a les territoires sur à Notre-Dame des Sept Douleurs qui ont été intégrés aussi, donc
ah oui.
Le secteur du Fort et le secteur du Kiwi, effectivement.
Bon, mais maintenant, quand on parle de 30 kilomètres, ça veut dire qu'à partir de Kakuna, on se rend presque jusqu'à Trois-Pistoles?
En fait, c'est jusqu'à l'île verte, mais on n'est pas très loin parce qu'effectivement, la réserve nationale de faune se rend pratiquement là, aux frontières de Trois-Pistoles. Donc, oui, effectivement, là, on couvre... C'est trois municipalités. C'est vraiment Kakuna, l'île verte et Notre-Dame des Sept Douleurs.
Bien. Mettons qu'on divise ça par saison, printemps, automne, été, hiver. Bon, qu'est-ce qu'on peut y faire si on tente de compartimenter ça par saison, là?
Ben, commençons par l'été, qui est la plus grosse saison. Évidemment, ben là, à partir depuis 2 ans, on offre le camping. C'est vraiment un camping rustique, se rapprocher de la nature. C'est sans service, mais on a quand même un pavillon d'accueil pour recevoir les gens et un bloc sanitaire complet. Donc, les gens peuvent prendre une bonne douche chaude. Même s'ils ont passé une nuit un petit peu dans la nature, ils peuvent se laver le lendemain matin. Beaucoup de sentiers de randonnée. On a le secteur des Faucons qui a été aménagé, qui va être inauguré cette année pour le qui est un sentier de vélo de montagne. Les gens peuvent aller faire de la course à pied aussi dans ce secteur-là. Découvrir la nature, on offre des visites guidées sur demande. Les gens peuvent... En fait, c'est vraiment une façon de se rapprocher de la nature. Et puis, on a un mandat aussi de valorisation de l'identité des Wallastoui et Wasibekuk, donc les Malécites de Vigée. Donc, on a des installations, de l'interprétation, puis on va offrir là, différentes activités là au cours de l'été. Donc, c'est vraiment là pour l'été, venir profiter de la nature du Bas-Saint-Laurent dans son meilleur. Au printemps, On peut parler beaucoup de l'observation des oiseaux. On est vraiment l'un des plus beaux sites au Canada là, pour l'observation d'oiseaux. Venir se déplacer là pour les ornithologues.
Est-ce que ça c'est particulièrement dans le secteur du port de mer?
Oui, principalement. Par contre, les différents territoires, étant donné qu'il y a une biodiversité et puis les territoires, là, la géographie est très différente. Il y a une possibilité d'en observer sur tout le territoire, là, particulièrement dans les marais salés. On a la tourbière du Bois des Belles aussi qui offre une variété d'oiseaux très différents. Donc, ça peut se faire sur tout le territoire.
Ouais. Mais maintenant, quand on parle de l'automne, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire en été avec en plus les couleurs?
Exactement. Donc, c'est sûr qu'en haut de la montagne, on faut pas s'attendre nécessairement à avoir des érables qui ont changé de couleur parce que c'est une forêt un peu plus boréale. Ouais. Mais il y a plusieurs territoires là, où on peut observer les belles couleurs du Bois-Saint-Laurent.
D'ailleurs, tous ceux qui ont gravi la montagne ont pu apprécier les plans de vue spectaculaires quand même qu'on a autant vers le nord, vers l'est, vers l'ouest du fleuve Saint-Laurent.
Oui, absolument. Puis les différentes montagnes, que ce soit la montagne du Gros-Cacouna ou le secteur des Passereaux, qui est maintenant notre secteur principal pour l'accueil, ça offre différents points de vue. Puis les gens qui ont gravi la montagne du Gros-Cacouna aussi, il faut penser que c'était, quand on regarde vers le fleuve, c'est la pouponnière pour les bélugas, donc l'observation de bélugas est possible. Puis pour les petites familles, c'est pas très difficile d'accès. Puis ça fait une activité merveilleuse.
Ouais. Et là, si on termine avec la saison hivernale, vous lancez quand même des ballons d'essai, je dirais, là pour le ski de fond cet hiver, en l'occurrence.
Pour le ski de fond cet hiver, c'est plus d'une façon libre. On permet aux gens, là, le territoire est accessible d'une façon libre. Il n'y a pas de piste aménagée.
C'est la raquette, alors?
C'est la raquette, effectivement. Oui. Donc, au secteur des Faucons, on a installé, c'est tout nouveau, on est allé faire la signalisation dans les dernières semaines. Les cartes sont installées, donc les gens peuvent aller découvrir le secteur des Faucons sous son manteau blanc. Donc, c'est une boucle d'environ 5 km. On peut faire un peu plus long parce qu'il y a des petits sentiers secondaires. Il y a un stationnement d'aménagé là pour les gens pour le départ. Puis, les gens vont se promener en montagne, en forêt. C'est à l'abri du vent parce que le territoire du parc côtier, étant donné qu'on est sur la côte, c'est très venteux. Mais ce secteur-là est vraiment à l'abri du vent. Donc, c'est le début d'une offre hivernale. On regarde cette année l'intérêt. On sait qu'on a eu des demandes, là, on a rencontré les gens là pour concernant le sondage qui avait été fait là pour le ski de fond et on étudie toujours la faisabilité du projet. Mais on regarde là, on commence avec des choses simples, on est une société à but non lucratif, donc on commence doucement, puis on voit l'intérêt des gens par la suite.
Bien. Et justement, c'était ma dernière question. Qui gère finalement le parc côtier Kiskotuk? Est-ce que vous ne vivez que de subventions gouvernementales? Qui gère ça et qui paye finalement?
Ben, en fait, à la base, c'est vraiment une initiative. On est un parc régional, donc ça a été créé par la MRC de Rivière-du-Loup. On est vraiment un organisme sans but lucratif. La Société du parc côtier Kiskotuk a son conseil d'administration qui prévoit les grandes lignes des orientations. Et puis, à travers ça, il y a un autre organisme sans but lucratif, la Corporation Parc Bas-Saint-Laurent, qui gère le day-to-day, on pourrait dire. Donc, à travers ça, effectivement, on essaie de s'autofinancer par les campings, les petites activités qu'on fait. Éventuellement, le but, évidemment, on a eu des investissements majeurs. On s'est fait aider autant au point de vue gouvernemental, des privés qui sont venus, qui croyaient au projet, la MRC, les municipalités. Mais tout ça, c'est dans le but de se rendre le plus autonome possible, mais pas au détriment du territoire. Donc, on n'est pas prêt à dire faisons des activités commerciales à tout prix. On veut vraiment garder le côté conservation du territoire.
Ouais. Ben merci de nous avoir parlé, M. Veilleux.
Ben, ça fut un plaisir.
Au plaisir. David Veilleux, agent à la promotion de la Société du parc côtier Kiskotuk.